Chapitre 1. La ville de Mycène, qui a donné son nom au cap qu'elle couronnait, à quelques kilomètres de Naples, dans la direction du sud, n'est plus aujourd'hui qu'un amas de ruines. Mais à cette époque, c'était une des plus florissantes cités de l'Italie. Si la vue que l'on découvrait alors du haut de ses remparts sur la baie de Naples, sa plage sans rivale, ses îles charmantes, émergeant toutes blanches de la mer aux flots bleus, est restée la même, nul ne reverra jamais la moitié de la flotte des empereurs romains évoluant dans le port de Mycène ou s'y balançant sur ses ancres. Il se trouvait, dans la muraille de la ville, une grande porte, toujours ouverte, sous laquelle venaient se rejoindre une rue et une longue jetée, qui semblaient n'être que la continuation l'une de l'autre. Un garde veillait à toute heure au-dessus de cette porte. Ce garde, par une belle matinée de septembre, entendit monter vers lui un grand bruit de voix. Il jeta un coup d'œil dans la rue et vit s'avancer un groupe d'hommes se donnant le bras. L'un d'eux paraissait avoir une cinquantaine d'années. Une couronne de feuillage entourait sa tête légèrement chauve. Il portait, ainsi que ses amis, une ample toge blanche, bordée de pourpre. De nombreux esclaves les suivaient. Ils agitaient dans l'air des torches allumées, dont la fumée répandait dans l'air un lourd parfum de nard indien. Le garde comprit que ces hommes étaient des personnages de haut rang, escortant, après une nuit de fête, un des leurs jusqu'au navire sur lequel il allait s'embarquer, et il retomba dans sa rêverie. « La fortune agit mal, Quintus », disait un des amis de celui qui se disposait à partir, en t'enlevant déjà à nous. « Tu n'es revenu qu'hier des mers lointaines, et c'est à peine si tu as eu le temps de rapprendre à marcher sur terre ferme. » « Par Castor !» s'écria une voix fortement avinée. « N'allons pas nous lamenter. Quintus s'en va chercher à regagner l'argent qu'il a perdu cette nuit. Les dés lui seront peut-être plus favorables à bord de son bateau que dans une salle de festin. » « Ne médis point la fortune !» s'exclama un troisième. « Elle n'est ni aveugle ni capricieuse, car elle accompagne Quintus partout et le rend toujours victorieux. Ce sont les Grecs qui nous l'enlèvent. Mais disons donc d'eux plutôt que des dieux. Depuis qu'ils se sont faits marchands, ils ne s'entendent plus à la guerre. » Tout en parlant, ils avaient passé sous la porte et gagné le môle. Devant eux s'étendait la mer, qui étincelait aux rayons du soleil matinal. Le bruit des vagues caressa les oreilles du marin, comme celui de la voix d'un ami. Il aspira longuement l'air imprégné d'une odeur salée, qu'il préférait infiniment à celle du nard. « Le vent souffle de l'ouest, » dit-il d'un ton sérieux. « Je t'en rends grâce, ô fortune, ma mère !» Tous ses compagnons répétèrent son exclamation et les esclaves brandirent leurs torches. « Voyez-vous cette galère qui approche ? » continua-t-il, en étendant la main vers le large. « Quel besoin un marin aurait-il d'une autre maîtresse ? Ta Lucrèce est-elle plus gracieuse, Caius ? » Vraiment, elle avait grand air, cette fière galère. Sa voile blanche se gonflait sous l'effort du vent, et ses rames s'élevaient et retombaient avec un mouvement d'ailes d'une régularité admirable. « Oui, reprit le marin, épargnez les dieux, car ils nous font la partie belle. À nous la faute si nous la perdons. Et quant aux Grecs, tu oublies, Lentulus, que les pirates que je m'en vais combattre sont justement des Grecs. Une victoire remportée sur eux en vaudrait 100 conquises sur des Africains. Alors tu pars donc pour la mer Égée ? » Mais le marin n'avait Dieu que pour son bateau. « Quelle grâce ! Quelle aisance ! » s'écriait-il. « Un oiseau ne se soucierait pas moins des vagues. Mais tu me parles, Lentulus. Oui, c'est vers la mer Égée que je vais me diriger, et mon départ est si prochain que je puis, sans trahir un secret d'État, vous en dire la raison. Les pirates de la Chersonèse, natifs des parages voisins du pont Euxin, ont traversé le Bosphore, coulé bas les galères de Byzance et de Chalcédoine, et atteint la mer Égée. La nouvelle vient d'en arriver à Rome. Les marchands de blé, dont les navires se trouvent dans la partie orientale de la mer Méditerranée, fort effrayés, ont fait demander une audience à l'empereur. Aujourd'hui même, 100 galères doivent partir de Ravenne et de Mycène. Il s'arrêta, comme pour mieux exciter la curiosité de ses amis, puis il ajouta, avec emphase, « De misaine, une seule. » Heureux Quintus reçoit nos félicitations. Cela fait présager ton avancement. Nous saluons en toi un futur Doumvir, rien de moins. Quintus Arius, le Doumvir. Cela sonne mieux que Quintus Arius, le tribun. Merci, merci, mes amis, leur dit Arius. Si vous portiez des lanternes, je dirais que vous êtes des augures. Père Paul, j'irai plus loin et vous montrerai quel maître de vin vous faites, car j'ai reçu confirmation de ma mission par Séjan lui-même. Tout en parlant, Arius regardait son vaisseau approcher. Il le considérait avec des regards enthousiastes. Enfin, il agita en l'air un des pans de sa toge. Aussitôt, en réponse à ce signal, un pavillon écarlate fut hissé à la poupe, à la plustre, tandis que plusieurs matelots s'empressaient de tendre les câbles de l'antamna. L'avant vira de bord, le mouvement des rames s'accéléra, et la galère se dirigea à toute vitesse vers la jetée. Quintus remarquait avec une satisfaction évidente comme elle répondait au moindre mouvement des rames et combien sa marche était régulière. Par les océanides, lui dit un de ses amis en lui rendant le rouleau, nous ne devons plus dire que tu deviendras fameux car tu l'es déjà. N'as-tu pas d'autres nouvelles à nous communiquer ? Aucune. Ce que vous savez est, à l'heure qu'il est à Rome, une vieille histoire. Du palais au forum, nul ne l'ignore. Mais pour ce qui est de la route que je dois suivre et de l'endroit où je rejoindrai ma flotte, je ne la prendrai moi-même qu'à bord, où m'attend un paquet de dépêches dûment scellées. Cependant, s'il vous arrive d'offrir aujourd'hui des sacrifices sur quelque autel, priez les dieux pour un ami naviguant près des côtes de la Sicile. Mais la galère s'apprête à aborder. Il me tarde de faire la connaissance des maîtres d'équipage qui vont faire voile et combattre avec moi. Ce n'est pas une chose aisée que d'atterrir en un endroit comme celui-ci. Nous allons juger de leur habileté. Cette galère te serait-elle inconnue ? Je ne l'avais jamais vue jusqu'ici. Et j'ignore encore si je trouverai à bord un seul visage déjà rencontré sur d'autres navires. N'est-ce point là un fait regrettable ? Il est de peu d'importance. Nous apprenons vite à nous connaître, nous autres gens de mer. Nos amitiés, comme nos haines, naissent au milieu des dangers. Le vaisseau qui approchait était un Navis Liburnica, long, étroit, construit de façon à pouvoir évoluer vite et facilement. Sa proue, superbement arquée, fendait l'onde, qui rejaillissait jusqu'à l'extrémité du tillac, bien au-dessus de l'eau. Des deux côtés, on avait sculpté des figures de tritons soufflant dans des conques. Le rostrum de bois, revêtu de fer, s'avançait au niveau de la ligne de flottaison et servait de bélier dans les combats. Tout le long du bastingage crénelé s'étendait une large corniche qui surmontait les trois rangs d'ouverture, protégée par des capuchons en cuir de bœuf, au travers desquels passaient les rames. Deux caducéis s'appuyaient sur la plustre et d'immenses cordes jetées autour du tillac correspondaient au nombre des ancres rangées sur l'avant-pont. À voir la simplicité de la mâture, on comprenait que les rames étaient, dans le bateau, la chose principale. Le mât, placé un peu en avant du milieu du pont et retenu par des cordages, fixé à l'intérieur du bastingage, portait une voile unique, de forme carrée. On ne voyait de la jetée, à part les matelots, qui venaient d'amener cette voile, qu'un seul homme sur le pont du navire. Il se tenait à la poupe et portait un casque ainsi qu'un bouclier. Les 120 rames en bois de chêne, blanchies par la pierre ponce et le constant contact des vagues, se levaient et s'abaissaient, comme si une seule main les avait fait mouvoir, et la galère marchait avec une vitesse semblable à celle d'un vapeur des temps modernes. Elle pointait sur le môle, en ligne si directe que les amis du tribun, peu accoutumés à un spectacle de ce genre, en prirent de l'alarme. Soudain, l'homme debout à la poupe fit un signe de la main. Aussitôt, toutes les rames se dressèrent, puis retombèrent lourdement dans l'eau qui bouillonnait autour d'elles. Pendant un instant, un tremblement sembla secouer le bateau, qui s'arrêta brusquement. Encore un signe, et de nouveau, les rames s'élevèrent et retombèrent, celle de droite battant en avant, celle de gauche en arrière. Trois fois, la même manœuvre se répéta, la galère tournait comme sur un pivot. Enfin, elle prêta le flanc au vent et doucement vint se ranger le long de la jetée. Au moment où elle abordait ainsi, les trompettes sonnèrent et l'on vit paraître sur le pont les soldats de marine splendidement équipés. Leurs casques de bronze, leurs boucliers, leurs javelots brillaient au soleil d'un éclat éblouissant. Tandis qu'ils se rangeaient en ordre de combat, les matelots grimpaient avec une agilité admirable le long du mât et se plaçaient sur la grande vergue. Les officiers, les musiciens étaient à leurs postes respectifs. On n'entendait ni un cri, ni un bruit inutile. Une passerelle fut jetée entre le pont et le môle, et le tribun, se tournant vers ses compagnons, leur dit avec une gravité dont il n'avait jusqu'alors donné aucun signe. « Maintenant, mes amis, le devoir m'appelle. » Il enleva la couronne de myrte qui ornait sa tête et la tendit aux joueurs de dés. « Garde ces lauriers, lui dit-il. Si je reviens, je prendrai ma revanche. Si je ne remporte pas la victoire, vous ne me reverrez jamais. Suspends cette couronne dans ton atrium. » Il les embrassa l'un après l'autre, tandis qu'eux lui disaient « Que les dieux soient avec toi, Quintus. » « Adieu, répondit-il. » Et après avoir fait de la main un signe aux esclaves qui brandissaient leurs torches, il monta sur le navire. Au moment où il posait le pied sur le pont, un éclat de fanfare l'accueillit et l'on hissa sur le grand mât le pavillon écarlate que seuls les commandants de flotte avaient le droit d'arborer. Chapitre 2. Le tribun était debout sur le gaillard d'arrière. Il tenait à la main les ordres du Duumvir et questionnait l'Hortator ou chef des rameurs. « De combien de rameurs disposes-tu ?»« De 252 et de 10 surnuméraires. » »« Divisé en équipe de 84 hommes. » »« Qui se relaient toutes les 2 heures. » Le tribun réfléchit un moment. C'est un service trop rude, je le ferai changer. Mais pas maintenant, car il faut que les rames ne s'arrêtent ni jour ni nuit. Puis, s'adressant au rector, timonier et chef des matelots, il lui dit : Le vent est favorable, fais carguer la voile. Quand ils se furent éloignés l'un et l'autre, il demanda au principal pilote depuis combien de temps il servait dans la marine. « Depuis 32 ans, répondit-il. Dans quelle mer as-tu navigué ? Entre Rome et l'Orient. Tu es l'homme qu'il me faut, s'écria Quintus en consultant sa feuille de route. Lorsque nous aurons dépassé le cap de Campanella, nous devrons nous diriger vers Messine, puis longer la côte de Calabre jusqu'à Mélite. Connais-tu les constellations qui règnent sur la mer Ionienne ?
Je les connais bien.
Dans ce cas, gouverne directement de Mélite sur Cythère. Avec l'aide des dieux, je ne m'arrêterai point que nous n'ayons atteint le golfe d'Antémone. Notre mission est urgente. Je me fie à toi pour la mener à bien. » Arius était un homme prudent. Et s'il offrait des sacrifices à la fortune, il n'en comptait pas moins bien plus sur son courage et son savoir-faire que sur les faveurs de l'aveugle déesse. Il avait passé la nuit à jouer et à boire, mais depuis que l'odeur de la mer avait dissipé les fumées de l'ivresse et réveillé ses instincts de marin, il ne songeait plus qu'à apprendre à connaître à fond son vaisseau et son équipage. Il eut bientôt fait le tour de tout le bâtiment et vu le conservateur des provisions, le surveillant des machines, l'intendant des feux et cuisines. Il lui restait à se rendre compte de la valeur des soldats, des matelots et des rameurs, et pour cela, il lui fallait du temps et de l'habileté. Vers le milieu du jour, la galère voguait en face de Paestum. Le vent d'ouest enflait la voile, et après avoir brûlé de l'encens sur l'autel, sur lequel on avait répandu du sel et de l'orge, et offert des prières, des vœux et des libations à Jupiter,
À Neptune et à toutes les Océanides, Arius vint s'asseoir dans la grande cabine afin de pouvoir à loisir étudier ses rameurs. Cette cabine occupait le centre de la galère. Elle avait 60 pieds de long sur 30 de large. Trois larges baies l'éclairaient, une rangée de piliers supportant le toit la traversait d'un bout à l'autre. De chaque côté des trois baies se trouvaient des escaliers, avec lesquels correspondaient des trappes pratiquées dans le plancher de la cabine. Elles étaient ouvertes et laissaient pénétrer à flot la lumière dans l'entrepont, d'où s'élevait le mât entouré d'un amoncellement de haches, de lances et de javelots. Ce vaste espace formait, pour ainsi dire, le cœur du navire. Il servait à ceux qui se trouvaient à son bord de salle à manger, de dortoir, de place d'exercice et de lieu de récréation, si tant est que la discipline et la règle de fer qui régissaient les moindres détails de leur vie permissent quelque chose qui mérita ce nom. À l'arrière de la cabine se trouvait une plateforme, à laquelle on parvenait en montant quelques marches. C'est là que se tenait l'ortator. Il avait devant lui une table de résonance sur laquelle il frappait en mesure pour marquer la cadence des rames et une clepsydre dont il se servait pour compter les relais. Une seconde plateforme, plus élevée encore, entourée d'une barrière dorée et très richement meublée d'un lit, d'une table et d'un siège garni de coussins, était réservée aux tribuns, qui pouvaient, de là, voir ce qui se passait sur tout le bateau. C'est de cette plateforme qu'Arius inspectait son équipage, qu'il observait de son côté, à la dérobée, avec une ardente curiosité. Les yeux du tribun s'arrêtaient avec une attention particulière sur les rameurs. Non pas qu'ils lui inspirassent la moindre sympathie, mais parce que d'eux dépendait, en une large mesure, le succès de son entreprise. Tout le long de la cabine se trouvaient fixés aux parois du bateau, sur trois rangs, des bancs, ou plutôt des sortes de marches superposées et placées un peu à défaut les unes des autres, de telle manière que chacune des deux rangées supérieures se trouvait être en recul sur celle de dessous. Ces marches étaient séparées l'une de l'autre par un espace suffisant pour permettre à chaque rameur de faire manœuvrer son aviron en réglant sur ceux de ses voisins ses mouvements, cadencés comme les pas d'un soldat. On pouvait multiplier ces bancs autant que le permettait la longueur du bateau. Les rameurs s'asseyaient sur les deux rangées inférieures. Ceux qui occupaient la dernière devaient se tenir debout. Ils maniaient des rames plus longues que celles dont se servaient leurs compagnons. Ces rames, plombées à leur extrémité, passaient dans des courroies suspendues au plafond, ce qui les rendait plus faciles à manier. Cependant, il fallait de l'habileté pour s'en servir, car à chaque moment, une vague pouvait atteindre le rameur inattentif et le précipiter à bas de son banc. Les ouvertures pratiquées dans les parois, pour laisser passer les rames, donnaient de l'air aux travailleurs, et la lumière leur parvenait au travers du grillage qui servait de plancher entre le pont et le bastingage du bateau. En un certain sens, la condition de ces hommes aurait pu être pire. Pourtant, il n'y avait place dans leur vie pour aucune joie. Il leur était défendu de communiquer les uns avec les autres. Ils venaient, jour après jour, reprendre leur place côte à côte, sans échanger une parole. Durant leurs heures de travail, ils ne voyaient pas les visages de leurs camarades et leurs courts moments de repos se passaient à dormir et à avaler hâtivement quelque nourriture. Ils ne riaient jamais et nul n'entendit l'un d'entre eux chanter. L'existence de ces êtres misérables ressemblait au cours d'un fleuve souterrain, coulant lentement, mais sans trêve, vers un but inconnu. Ô fils de Marie, si l'épée a maintenant un cœur, c'est à toi qu'en revient la gloire. Mais à cette époque lointaine, les captifs n'avaient à attendre que des corvées. Les routes, les remparts, les mines se les disputaient, et les galères de guerre ou celles des marchands étaient insatiables dans leurs demandes. Lorsque Rome gagna sa première bataille navale, des Romains tenaient les rames et partagèrent avec les soldats les honneurs de la journée. Mais les temps avaient marché, et les rangées de bancs qu'Arius contemplait témoignait des conquêtes de sa patrie. La plupart des nations de la terre comptaient des fils parmi ces hommes, qui étaient presque tous des prisonniers de guerre, mis à part pour cet emploi à cause de leur force de résistance et de la robuste qualité de leurs muscles. Là se trouvait un Breton, ayant devant lui un Libyen et derrière lui un natif de la Crimée, ailleurs un Scythe, un Gaulois et un Thébain. Des criminels romains se trouvaient mélangés à des Goths et à des Lombards, à des Juifs, des Éthiopiens, des Athéniens, à des Cimbres ou des Teutons. Les heures passaient, et le tribun, toujours assis dans son fauteuil, laissait ses yeux errer à droite et à gauche, sur les rangs des rameurs, en pensant à tout autre chose qu'à leur misérable condition. La précision de leurs mouvements finissait par devenir monotone. Il s'amusa à les considérer individuellement. Et ce faisant, il prenait note de ceux qui lui paraissaient insuffisants pour leur tâche et se disait qu'il trouverait, parmi les pirates, des hommes qui les remplaceraient avantageusement. Il n'y avait aucune raison de conserver les noms des esclaves, pour lesquels une galère représentait la tombe, aussi les désignait-on simplement par des numéros inscrits sur les bancs. Quand les yeux du tribun tombèrent sur le numéro 60, qui se trouvait placé tout près de lui, ils s'y arrêtèrent. Ce numéro 60, comme tous ses compagnons, était nu jusqu'à la ceinture. Il était jeune. Tout au plus semblait-il avoir 20 ans. Cette circonstance n'aurait pas suffi à retenir l'attention du tribun, mais la perfection de ses formes et la souplesse de ses mouvements excitaient son intérêt. Car ayant beaucoup fréquenté à Rome les écoles où l'on formait les gladiateurs, il se piquait de se connaître en homme. « Par les dieux, se dit-il, cet homme me plaît et je voudrais voir son visage de